Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. Mon objectif, c'est que vous découvriez de nouvelles personnalités, leur parcours, leurs conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes, ou tout simplement dans votre vie. Qui dit nouvelle saison dit aussi petit changement, cet épisode a été enregistré pendant la ProductConf 2019, l'événement annuel français qui regroupait cette année plus de 800 participants. Alors, j'animais une table ronde en compagnie de trois invités de marque, Aurélie Flidel, qui est CMO et CPO chez QuickSign, Anne-Claire Bachet, CDO chez Aramis Auto, et également Martin Daniel, Data Science Manager chez Airbnb, que vous avez déjà entendu sur la French Touch. Le thème de notre conversation, la data est-elle le futur du produit? Belle écoute à vous. Bonjour, on a 45 minutes ensemble pour parler de data, est-ce qu'elle est le futur ou pas du produit? 30 minutes où nos invités vont pouvoir échanger et 15 minutes qui sont réservées aux questions. Au niveau de la thématique, pour recadrer un peu, algorithme, machine learning, AI, big data, derrière le sensationnalisme et les mythes, de plus en plus de produits sont data-fueled. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce que cela implique pour les product managers? Tous les produits doivent-ils et peuvent-ils être dopés à la data? Est-ce qu'on peut être PM d'un algorithme? Et devons-nous tous apprendre la data science? La data science est-elle le nouveau code? Voilà. Donc, canevas général, on rentrera dans certaines de ces questions plus en détail et je vous invite donc à poser vos questions directement. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour, je suis Aurélie, je suis CMO et CPO chez QuickSign. Et QuickSign, c'est le leader européen de l'onboarding digital pour les services financiers. Et concrètement, on gère les parcours de souscription et d'onboarding pour les banques en ligne, le crédit conso et les assurances en ligne.
Bonjour à tous, je m'appelle Martin, je suis Data Science Manager chez Airbnb. Donc je m'occupe de l'équipe Data Science hors US, donc, qui est une équipe distribuée un peu partout dans le monde. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous connaissez Airbnb. Ceux qui ne connaissent pas Airbnb, peut-être je peux vous. Voilà, c'est une plateforme qui met en relation des voyageurs et des hôtes pour. Apparemment, vous connaissez. Voilà.
Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Anne-Claire Bachet. Donc, je travaille chez Aramis Auto. Je suis data scientist de formation. Je suis passée par le produit dans mon job précédent en étant CPO et CDO et j'ai rejoint Aramis Auto en tant que CDO assez récemment. Et Aramis Auto, moi je vais présenter quand même, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc la mission d'Aramis Auto, c'est de simplifier et de réinventer l'achat de véhicules en Europe. Et donc si vous pensez à changer votre voiture, n'hésitez pas à venir sur notre site aramisauto.com.
Parfait, merci beaucoup pour les présentations. Commençons par une question très simple, très directe. Est-ce qu'un product manager doit apprendre du SQL? Voilà. Le ton est donné ou du Python? Quelle est la différence? Je vous laisse me dire.
Alors juste avant d'en parler avec Gabriel, effectivement, je lui disais mais pourquoi ne pas avoir mis Python plutôt que SQL? C'est un aspect intéressant parce que c'était une question qui existait aussi il y a quelques années sur est-ce qu'un product manager doit savoir coder ou pas. Moi personnellement, en tant que data scientist de base qui arrivait après sur le produit, je dirais que forcément si vous savez coder, que vous êtes PM et que vous connaissez un langage, c'est un atout parce que vous arrivez à comprendre les contraintes de l'autre assez facilement parce que vous avez déjà expérimenté, donc vous comprenez les contraintes d'un dev. Dans la collab entre un PM et un data scientist, c'est un peu la même chose. C'est un atout si vous avez déjà codé, parce que vous allez avoir les réflexes, vous allez avoir ce bon sens. Mais moi, ce que je pense important, c'est vraiment la collaboration. Donc si vous êtes à l'écoute de l'autre, voilà, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de savoir coder.
Alors moi, je dirais qu'il faut apprendre à apprendre le SQL ou Python. Alors, enfin, de façon plus... Je pense qu'en fait, comme tout, en fait, il faut être nuancé. Il y a une phrase de Poincaré, donc le mathématicien, qui dit qu'il faut on trouve par l'intuition et qu'on prouve par la raison. Et en fait, je trouve que c'est un bon résumé de ce que c'est que le product management. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des intuitions, vous allez avoir des idées sur la vision du produit, ce que vous allez développer, et ensuite vous devez prouver ça. Et comment le prouver? Il faut le prouver par la data. Et ensuite, ça dépend la façon dont, au sein de votre entreprise, vous allez accéder à la donnée et répondre à ce besoin-là. Soit vous avez besoin de faire du SQL et vous avez besoin de requêter des bases de données, soit c'est pas le cas. Alors nous, chez Airbnb, on a trouvé une méthode qui est en fait d'abstraire l'accès à la donnée, donc de rendre très simple. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin de faire du SQL, donc comme ce que tu dis, en fait, on n'a pas besoin de faire de SQL pour ça. Mais c'est important d'avoir un accès à la donnée et de pouvoir prouver vos intuitions. Quoi. C'est un peu comme ça que je le résume.
Alors moi, j'ai envie de renverser un peu la question, parce que je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que oui, il faut que les product managers comprennent à minima les enjeux et les problématiques des data scientists pour arriver à collaborer de la manière la plus forte possible. Mais il faut aussi, à l'inverse, que les data scientists comprennent les enjeux et les problématiques du produit et des product managers pour eux aussi se rapprocher du produit et... Par exemple, enfin, je sais que chez QuickSign, on a une problématique qui est que les data scientists sont vraiment en mode recherche. Et le mode recherche, c'est pas le temps du product manager qui a une roadmap, qui a des jalons, qui a promis à un client qu'une fonctionnalité allait arriver à un moment donné. Et du coup, arriver à réconcilier les deux timings, c'est un enjeu et les deux doivent se comprendre et comprendre les problématiques de l'autre pour arriver à se retrouver à un moment donné.
Enfin, je pense que ce que tu dis, c'est clé. Une façon en fait, de le résoudre, c'est d'un point de vue de l'organisation. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en fait, vous avez des data scientists qui sont un peu en mode recherche, PhD, pour faire de l'OCR, pour faire des trucs chez QuickSign. Nous, la façon dont on l'a résolu, c'est que vous avez des feature teams un peu inspirés du modèle Spotify, vous savez, avec des espèces de
tribes,
voilà,
tribe,
tribe, etc. Donc, où en fait, vous avez une relation très proche entre le product manager et le data scientist, le designer, les ingénieurs, etc. Et donc, c'est important qu'il y ait pas deux clans différents et que tout le monde bosse un petit peu dans la même team. Quoi.
On a résolu la question de la même façon chez QuickSign. Ouais.
Et chez Aramis, c'est effectivement la même chose. Hein. Il y a des product managers qui sont dans la salle. Et donc, effectivement, au quotidien, on essaye de faire en sorte que data scientist et product manager travaillent ensemble. Souvent, le point sur lequel ils se rejoignent, c'est que dans la conception d'un produit, en fait, ce qui nous rend tous d'accord, c'est qu'on va répondre à un besoin d'un utilisateur, que ce soit un problème, que ce soit quelque chose sur lequel on puisse lui apporter de la valeur. Et ça, souvent, c'est un bon point de départ. Et après, c'est là où en fait le PM, ce qu'il va apporter souvent, c'est un peu une intuition, c'est une vision. Et là où le data scientist va finalement apporter des chiffres qui vont permettre de le factualiser, d'apporter aussi de la valeur, c'est-à-dire dans la conception même de la fonctionnalité. Quand vous êtes sur de la recommandation, du ranking, finalement la feature, c'est beaucoup un modèle d'IA derrière. Et donc, les deux points, je trouve, qui permettent vraiment de collaborer, c'est vraiment le client, parce que tout le monde se met d'accord. Et souvent, quand on conçoit un algo, des fois, on oublie un peu le client, parce qu'on pense à faire l'algo le plus performant, et c'est peut-être pas ça l'objectif. Et après, on se rejoint souvent sur la partie données, sur la partie mesures. Et quand cette collaboration s'effectue bien, on peut aussi y retrouver, je crois que tu as un exemple, avec, dehors la data, on voit des choses et on inspire carrément des features par la data.
On peut redonner juste le combien de personnes travaillent dans chacune de vos organisations, comprendre un peu la taille des orgas, ça m'intéresse.
Nous, on est 80.
Produit et data, au total?
Total, 80.
D'accord. Et sur produit et data?
Produit data, on est 25.
Ok.
Airbnb, on doit être, je dirais, 5000 dans le monde, 200 data scientists et, je dirais, 1000 ingénieurs, à peu près.
Je pense que vous êtes une des rares boîtes qui, dès le départ, a investi dans la data science. C'est ouais. Quasi day one.
Ouais, et on essaie de maintenir en fait un ratio ingénieur-data scientist qui est en gros de 1 pour 5. Donc, dans chaque team, vous avez en gros 5 ingénieurs pour un data scientist, quoi.
Et donc, chez Aramis, au total, on est un peu plus, on doit être 450, une centaine au siège, donc vraiment dans des fonctions plutôt au siège. Et au niveau produits et data, on doit être à peu près à 15 personnes au total.
15 personnes, d'accord. Parce que j'avais, en vous entendant, tout à l'heure de bien fonctionner, je me disais, je suis dans ma start-up, j'ai peut-être un mec dédié à la data. Comment j'arrive à bosser avec lui, concrètement? Collaboration, quand on n'est pas à cette taille d'équipe, où finalement il y a des process où c'est assez rodé. Est-ce que vous auriez des tips à donner justement pour ce type d'organisation plus petite?
Moi, j'ai juste un exemple, la personne qui m'a recruté chez Airbnb s'appelle Riley Newman, c'était le sixième employé d'Airbnb et il était data scientist. Et donc c'est intéressant de voir dans des petites boîtes, peut-être si vous avez une petite start-up, j'espère tous pour vous, vous allez devenir aussi gros que Airbnb un jour. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que la graine de l'analyse et la graine de cette idée de rationaliser des décisions a été posée très tôt au sein de l'organisation et que c'est un et que c'est quelque chose qui a été fait aussi parce que Airbnb passait par le Y Combinator a eu des investisseurs très tôt qui ont été quand même très câblés sur ces sujets-là et sur le fait que très tôt on essaie d'instaurer dans les décisions que vous allez prendre une logique du coup très data-driven. Je donne un exemple qui est très simple de décision que vous pouvez rationaliser. Quand Airbnb a commencé sur les villes qu'il fallait ouvrir, c'est vrai qu'il y avait une espèce de heuristique pour Airbnb, c'est en gros il vous fallait 500 listings dans une ville pour commencer à initier un peu la pompe de du début d'une ville. La question c'est où est-ce que vous allez monter votre prochaine ville quoi. Et ben pour ça, Riley du coup qui était donc la personne qui m'a embauché a fait la première régression et la première analyse qui du coup allait justifier ses premiers investissements. Donc à n'importe quelle étape de votre développement, vous allez vous poser des questions et à chaque étape, il y a une réponse rationnelle à apporter et donc il faut toujours se poser la question de comment est-ce que en fait je peux prouver mon intuition quoi.
Et c'est effectivement très intéressant ce que tu dis parce que la manière dont vous allez voir la data développée ou intégrée dans une entreprise, ça va être très révélatrice aussi de son mode de fonctionnement, voire même de sa culture. Et donc, peu importe la taille, je dirais qu'à un moment, c'est plutôt de repérer est-ce qu'en fait, cette entreprise-là est très data-driven ou pas. Donc, si vous êtes dans une start-up et que vous commencez normalement, voilà, vous êtes très sur vos métriques. Il y a peut-être un moment où il y a la phase d'hypercroissance, vous lâchez un petit peu sur les métriques parce que ça va tellement bien que on n'est pas dans la finesse. Et très souvent, quand vous réarrivez à un palier de maturité, c'est là où il y a re-besoin beaucoup plus d'une présence data. Après, ça va dépendre de votre business model, parce que dans le digital, une fonctionnalité qu'intègre de l'IA, ça peut être au cœur de votre business model, c'est le cas hein, chez QuickSign, où ça peut être vraiment un levier différenciant. Mais voilà, c'est aussi très révélateur de ça. Et après, il y a plusieurs manières, moi, dans ma vision d'y aller. Si c'est vraiment au cœur de votre business model, bien sûr qu'à l'échelle d'une petite start-up, vous allez avoir des profils data dans l'entreprise. Maintenant, c'est pas parce que vous allez introduire un data scientist dans l'organisation que ça va être magique, qu'il va vous détecter des patterns comme ça que vous avez jamais vus. Ça peut arriver, vous pouvez tomber sur le mouton à cinq pattes, franchement je vous le souhaite. Mais être data scientist, avoir une bonne compréhension de l'entreprise et business en arrivant day one, c'est quand même très compliqué. Donc deux choses par rapport à ça. Souvent c'est bien de commencer par des logiques, alors moi j'aime pas dire de travailler avec des sociétés externes, mais voilà des logiques un peu de partenaires. Je commence, je fais petit, c'est hyper important que j'ai un super bon algo de recommandation. Je vais peut-être voir quelles sont les startups ou les autres boîtes qui proposent ça ou fonctionner avec quelqu'un en freelance ou une boîte de conseil. Commencez, montrez la valeur, voyez si ça fonctionne et en fonction de ça, vous verrez justement comment se passe la collaboration et quels sont les atouts aussi du premier data scientist que vous allez recruter. Est-ce que vous attendez quelqu'un qui est très à l'écoute du business? Quels sont les sujets sur lesquels vous allez pouvoir le positionner? Et comme ça, quand vraiment vous allez commencer à mettre en place les équipes, vous aurez déjà un peu ce trac-là de construit.
C'est intéressant parce que première question était sur est-ce que je dois apprendre le SQL? Je suis un PM. On a évolué vers de la collaboration. Je reviens, je suis le PM de la salle, ok? Être PM d'un algorithme, je me sens totalement dépossédé puisque la compétence n'est pas mienne. Donc je me retrouve à essayer d'intervenir à la marge sur le rationnel des décisions qui sont prises par mon copain de la data, ou ma copine. Comment vous répondez à ça? Est-ce que vous avez des exemples où ça s'est vécu et qu'est-ce que vous répondez?
Ouais, Anglaire l'a évoqué. Déjà, la première chose, c'est que le PM, il est le garant du besoin client. Et ça ne sert à rien d'essayer de faire un algorithme comme ça si on ne sait pas à quel besoin, à quel cas métier on veut répondre. Donc déjà, le PM doit être celui qui initie, qui donne la vision, qui explique la problématique à laquelle on veut répondre tous ensemble. Et ensuite, le travail du PM n'est pas simplement de passer la main au data scientist et de plus s'occuper du tout de ce qui se passe. Au contraire, nous, ce qu'on voit chez QuickSign, c'est qu'on a un véritable enjeu à rendre les algorithmes, dans la mesure du possible, le plus compréhensible possible auprès de nos clients. Parce que sinon, les clients voient un algorithme, une sorte de boîte noire, et ils ne peuvent pas faire confiance. Donc il y a un travail de pédagogie qui est extrêmement important. Il ne faut pas seulement comprendre l'enveloppe, mais il faut vraiment comprendre le contenu de l'algorithme, comment il va fonctionner, arriver à le challenger en le confrontant à la réalité. Parce que si on ne confronte pas l'algorithme à la réalité, on peut complètement passer à côté et du coup s'éloigner de la problématique à laquelle on veut répondre. Et du coup, le PIAM est vraiment garant de tout ce développement-là, jusqu'à amener l'algorithme auprès du client, le vendre, l'expliquer. Et je pense qu'il y a un point qui est très important, en tout cas qu'on a beaucoup remarqué chez QuickSign, c'est qu'un algorithme, quand on veut le mettre sur le marché, c'est pas un produit qui est 100% fini. Contrairement à n'importe quel autre produit, on sait que le produit peut aller en production parce qu'il répond à un certain nombre de critères, il a un certain nombre de fonctionnalités qui ont été définies comme étant nécessaires. Là, l'algorithme, il doit répondre à des critères de performance, mais ensuite, cet algorithme, il va s'améliorer au fur et à mesure que la data arrive de la production, et c'est parce qu'il est en production qu'il va devenir de plus en plus efficace. Et ça, c'est une démarche que le PM aussi doit expliquer, c'est une éducation presque des clients que le PM doit porter, et qui est à mon sens clé pour arriver à faire un produit qui est successful.
Je pense, juste Lazy, sur la question dont tu parles, qui est... Il y a quand même le problème de l'interprétabilité, quoi, qui est un peu un sujet, parce que on est quand même en train de bouger vers de plus en plus de techniques. Je prends l'exemple du search chez Airbnb, où en fait on pouvait commencer sur des méthodes type gradient boosting, où en fait vous avez une lecture possible en fait de vos features, et c'est possible de comprendre en fait pourquoi est-ce que vous avez choisi tel appartement versus tel autre, à des modèles qui sont plus des réseaux de neurones, des trucs un peu deep learning, etc. Où par définition c'est une boîte noire, quoi. Et par définition, vous pouvez rien comprendre de ce qui se passe, quoi. Et donc, c'est très compliqué de comprendre pourquoi est-ce que vous avez un choix. Et donc, ça met un peu en tension la logique un peu traditionnelle du product management, tel que il peut être visible. Je sais pas, c'est différent d'un front où tu as un bouton à cliquer, c'est rouge, c'est vert, et puis c'est ça, etc. Là, c'est absolument incompréhensible par définition, parce que c'est une boîte noire qui a tout quelque chose. Et donc, c'est un peu la question de un peu une espèce de nouvelle sorte de data product qui du coup implique un peu un nouvel type de compétences, quoi. Nous, on a pas mal de gens qui sont passés de la partie data science qui sont devenus product managers pour développer ce genre de compétences, quoi. Mais du coup, vous avez un peu cette question de gouvernance. Qui fait ça? Est-ce que c'est l'ingénierie? Est-ce que c'est la partie data science? Est-ce que c'est dans le produit? Et la maîtrise de ces algos-là qui deviennent clés dans vos boîtes devient, je pense, un peu une question de pouvoir dans les entreprises, quoi.
Typiquement, là-dessus, on n'est pas sur le PM gère le data scientist. C'est vraiment de la collaboration. C'est flat en termes d'organisation. Il n'y a pas de rapport hiérarchique de l'un à l'autre. On est d'accord?
Non.
Ok. Et c'est pas quelque chose que vous recommanderiez de toute façon?
Non, je pense pas, dans le sens où c'est effectivement des compétences qui sont assez complémentaires. L'un et l'autre ont des choses à s'apporter et peuvent se rejoindre sur un vocabulaire commun. Par exemple, je pense que ce que tu citais en disant, finalement, quand on est sur des algorithmes auto-apprenants, on a beau leur avoir fait apprendre sur des premiers jeux de test pour voir s'ils fonctionnaient ou pas. Quand on est en prod, il y a beaucoup plus de volume, donc on sait que ça va être meilleur. Finalement, la manière de le dire, c'est c'est le MVP de mon algorithme. Et en fait, le prérequis pour le passer en prod, c'est que sur mes données de test, il soit à tel niveau. Et puis à un moment, par contre, ce que je vais suivre en critère, c'est clairement sa capacité à s'améliorer dans le temps. À s'améliorer dans le temps derrière, quoi.
Typiquement, comment vous arrivez à concilier dans vos entreprises data science et sprint d'une semaine, deux semaines? Voilà. J'ai une fonctionnalité, un MVP à développer, j'ai dispose de tant de temps. Comment ça s'intègre? Comment c'est géré? Est-ce que c'est compatible?
Alors, moi, je peux vous donner une méthode. C'est le qu'on fait chez Airbnb, mais après, je pense qu'il y en a sûrement plein d'autres. Nous, le développement du produit data, ingénierie, etc., se fait sous la forme de cycle qui tourne en gros de 8 semaines. Donc, vous avez un début du cycle, vous êtes en train de planifier, de développer un truc, etc. Fin du cycle, vous présentez ce que vous avez fait comme feature, etc. Milieu, vous avez un petit point de check-in. Et puis, on redécoupe ce cycle en des moitiés de cycle. Et puis, on découpe la semaine, j'allais dire, à la maille de la semaine, entre début de la semaine où on fait un stand-up et ensuite, à la fin de la semaine, on partage ce qu'on a fait, etc. Donc, je pense que vous pouvez découper votre temps sous différents trucs. Et après, il y a des projets qui spannent sur plusieurs cycles. Après, le truc, c'est qu'il faut faire très gaffe à, en tout cas, dans les projets, et je pense que peut-être on pourra venir sur la question des projets qui marchent pas quand vous faites entre data scientist et product manager, faire très gaffe aux projets en chambre, où vous avez, vous prenez votre piolet et votre pelle et vous allez commencer à creuser dans votre coin pendant 2 semaines. Ça peut être très dangereux parce que vous sortez complètement d'une logique justement produit et qui est liée à un cercle de développement. Et donc faut arriver à prendre un problème qui peut être, alors après des problèmes il y en a plein, mais des problèmes qui sont larges, les découper en petits morceaux, les faire entrer dans un cycle et arriver. Et c'est ça qui est important, je pense, dans la rigueur d'un product manager, c'est d'arriver à faire rentrer des cycles de développement qui peuvent être un peu longs dans un cycle du coup qui est celui de sur lequel tourne la boîte. L'autre point dont je veux mentionner qui est important, c'est que alors nous on est organisé sous forme de team. Donc, vous avez l'équipe supply, l'équipe demande, l'équipe entre les deux, l'équipe qui fait les prix, l'équipe qui fait les paiements, etc. Donc, à chaque fois que vous développez une feature, vous allez forcément avoir des interdépendances avec ces différentes équipes. Et donc un des trucs qui marche bien avec ces cycles, c'est que du coup on est tous en cycle et donc on est tous en sync si vous voulez avec toutes les autres équipes quoi. De sorte que on peut se mettre d'accord sur ok moi j'ai développé ça, pour ça j'ai besoin de telle dépendance et donc on se met d'accord entre différentes équipes. Donc ça quand vous arrivez à des tailles de boîtes qui viennent un peu grand et que vous avez de l'ordre du millier d'ingénieurs, c'est pas mal pour s'organiser quoi.
En fait, moi, je pense que je suis peut-être une des plus anciennes. Quand j'ai commencé, on parlait plutôt de data miner. Et ce qui était bien, c'était que les algorithmes, comme les réseaux de neurones, ça tournait pas sur de gros volumes. Donc, les modèles étaient plutôt assez explicables. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de cursus très data science, finalement, toutes les compétences projet, gestion de produits, agile, sont pas hyper présentes dans les formations. Et donc, c'est vrai que là-dessus, moi, je sais que d'être passée avant data science et product, j'ai beaucoup appris sur la méthodo. Et moi-même, j'étais à me dire, ça se trouve, j'ai jamais trouvé l'algo qui va m'aider à être suffisamment performant pour tel truc. Donc, pourquoi est-ce que tu me demandes telle date? Ça se trouve, j'ai aucun algo qui fonctionne. Et donc, je disais, je sais pas, peut-être que je vais te le faire dans 2 mois. Bon. Bref, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Au contact produit, et après c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée au sujet, et c'est des choses que j'ai ramené après dans la data en me disant quel est ton MVP, c'est quoi les cycles qu'on va se donner, quels sont les points de rencontre que tu as avec la personne qui à un moment va plutôt en produit concevoir ton algorithme, est-ce qu'à un moment vous avez prévu de faire un test utilisateur ou pas. Et un exemple qu'on a, sur lequel on est en test d'ailleurs en ce moment, c'est un algorithme de ranking, pour justement optimiser la transformation en fonction du ranking des voitures sur le site. Et donc toutes les semaines, Océane qui est dans la salle a le point avec Marjorie, la data scientist de mon équipe. Elle voit comment ils avancent, s'ils ont des points de blocage ou pas. On a fait venir aussi donc les achats qui sont en charge de l'offre des véhicules pour leur dire voilà aujourd'hui voilà ce que voit l'utilisateur sur le site, voilà les véhicules qu'il voit, nous on pense que ça c'est un problème utilisateur qu'on va pouvoir, et pour vous quel serait le bon ranking. Donc on a considéré que nos utilisateurs c'était possiblement ceux qui à un moment portaient l'offre. On l'a vu aussi avec des collaborateurs en agence, nos commerciaux, parce qu'ils utilisent le site en facing client pour pouvoir leur montrer les produits, parce que la particularité c'est que nos clients ne peuvent pas voir les voitures dans les agences Aramis Auto, et donc on a testé avec tous ces utilisateurs là et donc je pense que c'est là-dessus la collaboration apporte cette méthode là moi justement je me pose un peu la question de comment je peux justement donner ces compétences un peu product aux data scientists de l'équipe, les petits tips de formation que je pourrais leur apporter là-dessus.
J'ajouterais quelque chose, c'est que au-delà du timing, il y a des contraintes de production que les data scientists doivent avoir en tête à minima, voire doivent prendre en compte quand ils développent leur modèle. Par exemple, ne pas faire un modèle trop lourd qui serait extrêmement coûteux d'héberger, ou savoir si le client final veut utiliser l'algorithme de manière synchrone ou asynchrone, parce qu'en termes de temps de réponse, ça va influencer aussi ce qui va être fait. Et donc effectivement, c'est là où les data scientists doivent comprendre les problématiques de la production, les avoir en tête pour le timing, mais aussi pour d'autres aspects, et avoir des algorithmes qui au final voient le jour et répondent aux besoins.
Dans la session d'avant, on parlait du lien entre produit et marque. Quand j'entends ce travail de collaboration, ça me fait à la fois penser à la collaboration produit-brand comme produit-data et développeur. Est-ce qu'on est sur ce même type de relation ?
Ouais, et alors, si je peux juste complètement, voilà, point.
Il a envie de me contredire, non ?
Non, non, j'ai pas envie de te contredire. J'ai juste envie de dire, en fait, il y a un super article qu'il faut que vous lisiez sur, c'est un truc de, sur Quora. Ça s'appelle, j'ai oublié le nom de la personne qui a écrit, ça s'appelle Reactive versus Proactive Data Science. Et ça parle exactement de ce dont tu parles. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux méthodes d'organisation, quoi. Soit vous mettez un data scientist en chambre et vous lui lancez par-dessus, comme ça, le mur, vous lui lancez des requêtes en disant sors-moi le nombre d'autres qu'il y avait à Paris, etc.
Tiens, prends telle data, etc.
Et donc, en fait, vous êtes dans une démarche qui est très réactive. C'est en fait, en tant que data scientist, vous êtes juste en train de prendre des requêtes et vous faites ça dans votre coin. Soit vous vous dites, bah non, en fait, je fais partie du processus de décision et en fait, j'ai autant mon mot à dire, ça c'est un truc qui est important, autant mon mot à dire dans la définition d'un produit, définition, quelque chose, etc., que le reste de la team. Et c'est pour ça que dans l'équipe leadership que nous, on a, par exemple, quand j'étais à San Francisco et que je m'occupais de l'équipe haute professionnelle, on était une équipe de lead composée et j'avais la même voix que le product manager, que l'ingénieur, etc. Et chacun avait sa petite pierre. Et donc, c'est important de dire ça parce que, du coup, la démarche proactive Data Science, c'est de dire, OK, je vais pas passer 3 semaines à aller prendre ma pelle et creuser parce que ça me prend du temps et parce que j'ai des ressources limitées. En revanche, je pense que cette question-là, sur ce truc-là, cette opportunity sizing-là, il est hyper important et je pense qu'il faut que je mette mon temps dessus et ma team dessus. Et c'est important d'avoir ce truc-là parce que, en fait, un data scientist sait très bien en fait, les problèmes qui valent le coup d'être recherché. Et je pense qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit. N'oubliez pas que dans ces boîtes, encore une fois, on est 1000 ingénieurs et 200, ça vous paraît énorme. En fait, on est toujours resource constrained. Et en fait, vous êtes toujours être contraint par la ressource. Et c'est votre grand problème. Le grand problème, c'est il faut que vous attaquiez à quel problème. Et c'est ça le sujet. Et donc, du coup, il faut être dans ces démarches de proactive versus réactive. Et trouver le lien sur Quora, parce que c'est vachement bien écrit.
Tout est au mieux dans le meilleur des mondes possible. Des exemples de fail de collaboration. Arrêtez de me vendre du rêve, là.
Alors moi, un exemple de fail. Alors ce qui est drôle, c'est que je pense que pour le produit, c'était pas un fail, et pour la data science, c'était un fail. Donc c'était un projet qui visait à mesurer une affluence et du coup pouvoir restituer à l'utilisateur l'affluence dans une zone géographique donnée. Et donc là, on est parti dans des trucs, aller regarder plein de technologies, différents capteurs, se dire que comme c'est un espèce de vente, on avait tout les ticketing de vente, donc on allait pouvoir prédire combien de personnes allaient venir à ce moment-là dans tel espace. Et donc on est parti sur des trucs de fou. Et à un moment, on s'est dit, ah, et finalement, on est provider du Wi-Fi dans l'endroit. Les gens ont à peu près tous du Wi-Fi. Si on commençait déjà avec une règle toute simple, qui était, si en fait, je me rends compte qu'à tel endroit, j'ai déjà 3 personnes qui sont connectées au Wi-Fi, je mets une petite règle simple, je vais faire de l'observation, je multiplie par 3 ou 4 et je vais dire affluence pas forte, affluence moyenne. Peut-être que ce serait bien. Et puis j'y grefferai une fonctionnalité utilisateur qui dirait est-ce que cette info a été vraie ou pas, est-ce que vous avez été utile ou pas. En fait, ça a été, pour moi, de mon point de vue, c'était un succès, vu produit, parce que je me disais, on a mis en place une feature, elle était utile, on va la faire grandir, on va peut-être passer sur des trucs plus compliqués. Et pour les équipes data, c'était vraiment un fail. C'est super, on n'a rien fait, on a mis en place une règle, c'est pourri. On pouvait vraiment faire des trucs sympas et qui apportaient de la valeur. Donc, des fois, un fail n'est pas toujours un fail du point de vue des différentes parties prenantes.
Alors moi, j'ai plein d'exemples de trucs qui ont vraiment bien foiré. Je peux vous donner... J'en ai un qui est quand même vraiment symptomatique. Quoi. En 2014, il y a un data scientist, un des premiers data scientists s'appelle Yann Overgaard, qui trouve un problème dans ce qu'on appelle la hashing keys. Donc je la fais très courte, mais en gros, pour randomiser des experiments, donc quand vous faites des experiments AB, donc des A-B tests, vous devez randomiser ça. En fait, vous avez un visiteur qui arrive sur la plateforme et vous devez assigner ce qui va en groupe A ou en groupe B. Et donc pour ça, on a développé notre propre système pour le faire. Il s'avère que la façon dont on randomisait ces experiments était biaisée, de sorte qu'en fait, absolument toutes les experiments qui avaient été faits chez Airbnb donc depuis quasiment 2 ans étaient complètement fausses. Tous les trucs étaient faux. Et donc, alors vous allez me dire, et donc toutes les décisions qui ont été prises, si vous voulez, là-dessus, étaient biaisées sur. Donc c'est emmerdant quand même comme de ça. C'est un bon fail. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est parce que je pense que c'est hyper important. Alors, autre article qu'il faut que vous regardiez sur Internet, c'est Monica Rogatti qui a écrit un article qui s'appelle The Hierarchy of Data Needs et qui, très simplement, tout se résume dans une image qui est une pyramide. right, une pyramide, et la pyramide de par où il faut commencer. Il faut commencer par la base, très simplement, par l'infrastructure, par juste, il faut commencer par compter des trucs, voilà, juste, enfin déjà, mesurer les choses, savoir compter, et vous serez surpris du nombre de boîtes qui ne savent pas compter, c'est-à-dire qui ne savent pas compter le nombre de ventes qu'ils ont, le nombre de visiteurs qui viennent sur leur site, le nombre de trucs aussi basiques que le nombre de trucs. Et moi, je pense que chez Abini, parfois, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas compter, c'est-à-dire, je pense qu'on ne sait pas compter. Bon, voilà. Et ensuite, à partir de ça, vous pouvez développer plus de trucs, des statistiques, des inférences. Et plus tard, demain, etc., du machine learning et des trucs de AI, etc. Et la plupart des boîtes ont un peu une espèce de complexe de petits poussés un peu à l'inverse et veulent commencer par la pointe de la pyramide. Peut-être parce que parfois il y a un peu des, je sais pas, des espèces de trucs un peu shiny où tu as envie de montrer à ton boss que tu fais des trucs hyper cool, etc. Et on oublie l'infrastructure et la base qui est juste de construire les routes sur lesquelles vous allez créer votre structure. Et donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, juste pour donner cet exemple, il faut absolument savoir compter. Et donc, voilà.
J'avais un corollaire à ça, c'est si ma boîte n'est pas du tout data-driven, est-ce que c'est grave, docteur? Et comment faire pour arriver petit à petit à inverser la tendance?
Alors, je pense que dans une boîte qui n'est pas data-driven, mais on a accès à la donnée, je pense qu'une des forces, quand on a accès à la donnée, c'est de se confronter, en fait. Donc, à un moment, d'aller se confronter aux principaux chiffres et puis d'aller faire réfléchir. D'aller, je ne sais pas, mettre en parallèle des montants investis sur l'acquisition avec des taux de transformation derrière. Et donc, à un moment, tout simplement, c'est des fois de commencer avec des trucs très basiques, de bon sens, en disant, je vais regarder tous ces trucs-là pour avoir une forme de prise de conscience autour des chiffres. En se disant, à un moment, on met énormément d'énergie là. En fait, les fronts, ils ne sont pas du tout à cet endroit-là.
Mais ça, qui fait ça?
Alors, s'il n'y a vraiment personne dans l'entreprise...
À part, à minima, le CFO, j'ai envie de dire.
Mais le CFO, ouais. Ça peut être le CMO aussi, hein, très souvent.
Non, mais ouais. Le CFO, il y a quand même un minimum de chiffres. Il faut au moins que tu aies au moins une comptabilité. Tu as au moins au moins ça en chiffres. Ça va si tu es dans le rouge ou pas. Quoi.
Non, mais justement, ces boîtes qui se disent « Ok, je suis vraiment à la ramasse et je vais commencer par le tip of the iceberg ».
Mais je pense que c'est comme tout, c'est qu'en fait je pense qu'il faut pas se tromper il faut pas se tromper de combat quoi. Il y a toujours un truc, il faut éviter un truc qui est ce qu'on appelle le pire, je pense l'ennemi de c'est ce qu'on appelle la fausse précision quoi. C'est en fait vous faites des projets pour faire des projets, vous essayez d'optimiser des mini trucs qui servent strictement à rien. Donc faire gaffe à ça, il faut toujours rester dans est-ce que ce que vous faites a du sens, ce que tu dis quoi, le bon sens de est-ce que vous êtes j'ai l'impression que plus j'avance, plus je suis paysan. Et en fait, il faut être très terre à terre, quoi. Ça, en fait, il faut essayer de comprendre est-ce que ça a du sens, et toujours essayer de prendre du recul et d'avoir toujours un esprit très critique sur la façon. En fait, moi, j'ai un exemple sur sur ça. C'est la façon dont on recrute, qui est souvent un très bon signal de comment est-ce qu'on a envie, quel type de personne on a envie de recruter. En fait, typiquement, c'est marrant, mais les questions techniques. Alors, on a des questions techniques sur la façon dont on vous recrute chez Airbnb. C'est on vous donne pour entrer en data science, on vous donne un set de données. Et des questions. On dit, débrouille-toi, t'as ce truc-là, t'as deux jours pour nous renvoyer une réponse. Et dans la correction en fait de ces cas, en fait, on regarde assez peu les choses techniques. On regarde un petit peu la façon dont vous codez, etc. Mais on regarde surtout, est-ce que vous avez du bon sens, quoi. Est-ce que vous êtes vraiment en train de, est-ce que vous avez le business sense, est-ce que vous approchez le problème de la bonne façon, est-ce que vous posez les bonnes questions, etc. Beaucoup plus que savoir coder. Parce qu'en fait, si vous savez faire ça, en fait, c'est assez facile ensuite de dérouler le reste et de vous apprendre à coder sur je sais pas, du R, du Python, etc. Et donc ça, je pense que c'est important de commencer par ce truc-là.
Justement, c'est quoi les qualités recherchées?
Ah, je dirais qu'après, ça va dépendre... Enfin, déjà, ça va... ce qui est important, c'est qu'un data scientist, même si c'est quelqu'un qui est expert et avoir des compétences techniques, moi, après, c'est ma conviction, c'est que sur tout recrutement, le plus important, c'est va être, un, le cultural fit. Donc ça va être un moment, est-ce que la personne elle est vraiment dans l'état d'esprit de l'entreprise? Après, ce qui est pas évident, je pense, c'est quand c'est votre premier data scientist, que vous avez vous-même pas les compétences, comment est-ce que vous savez qu'il est bon ou qu'il est pas bon? Là, c'est vrai que t'es dans un case où vous êtes capable de juger du code, il y a pas mal de choses où vous avez déjà des données que vous pouvez transmettre au candidat, donc c'est déjà un bon niveau et je pense que c'est une très bonne manière de recruter, je suis très en phase. Des fois, les questions que vous pouvez avoir, elles sont toutes bêtes, quoi. C'est, alors, plus vous la posez de manière idiote, plus ça peut être très drôle. Mais ça peut être de dire, très bien, est-ce que tu pourrais me dire, c'était une question que je posais il y a longtemps, vous m'excuserez, vous avez le droit de ricaner. Je disais à des personnes, est-ce que vous pourriez me dire combien est-ce que vous pensez qu'il y a de maisons de retraite en France? Parce que c'est le genre de questions que je pense personne dans la salle ne s'est posé, sauf si vous êtes dans ce marché ou dans ce business. Mais en fait, tout simplement pour voir comment la personne va raisonner. C'est est-ce qu'à un moment, elle va avoir des ordres de grandeur en tête, elle va se dire machin, quelles données j'ai en open data, vous allez voir sa curiosité. D'ailleurs, vous allez voir si la personne revient vers vous après en disant d'ailleurs, j'ai trouvé combien il y a une maison de retraite. Et donc, en fait, ces petites questions-là, elles sont pas mal pour voir si c'est pas une personne qui va se perdre dans la complexité, qui derrière va vous expliquer que ça va être très long, qu'il va falloir investir de l'argent juste pour pouvoir avoir un ordre de grandeur ou calculer un chiffre.
Typiquement, c'est une question qui était posée chez Google à l'époque. Combien de balles de golf on peut mettre dans un bus ? Voilà. Donc c'est plus le raisonnement qui compte que la réponse, effectivement. Une des questions qui était posée, que je trouve intéressante en lien avec ce qu'on se dit, c'est comment peut-on éduquer, s'il y a besoin d'éduquer, des data scientists aux problématiques des clients ? Être sûr qu'ils sont en phase avec la réalité business et pas perdu dans du...
On peut leur proposer d'aller au rendez-vous chez les clients.
Oui, vous le faites ?
Oui, on le fait, bien sûr. D'une part, parce que souvent, ça fait plaisir aux clients de voir des data scientists. Enfin, voilà, c'est pas seulement des grands mots qu'on leur vend, il y a vraiment des gens derrière. Et puis, effectivement, ça permet aux data scientists de comprendre quelles sont les problématiques clients, parfois de voir comment ils travaillent avec les outils qu'on leur met à disposition.
Chez Aramis Auto, c'est aussi un principe qu'on a alors pour toute l'entreprise, mais pour les data scientists, c'est la même chose. C'est vraiment d'aller régulièrement sur le terrain. Chez Aramis, chez nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aller dans des agences avec des commerciaux, voir comment ils travaillent, voir sur quelles données ils se basent, voir du coup les clients aussi qui sont en face. Et c'est finalement plutôt de prendre le pli aussi régulièrement, d'aller tout simplement voir les utilisateurs finaux. Concrètement, c'est toujours très simple quand on regarde. Ça ne demande pas beaucoup de moyens et c'est logique. Après, il faut avoir aussi, et c'est peut-être un truc à prendre en compte dans le process de recrutement pour venir avant, des personnes qui ont envie de le faire.
Nous, on vous donne des crédits Airbnb tous les mois. Comme ça, vous pouvez utiliser la plateforme. Non, mais sans blague, en fait, c'est quand même pas mal d'avoir un produit que vous pouvez utiliser et sur lequel vous pouvez ensuite faire des retours. Il y a ça. Il y a un rôle qui s'appelle Product Specialist qui fait le lien entre le customer support, parce que nous on a des dizaines de milliers de tickets qui rentrent par jour d'appels, etc., de problèmes divers et variés, et donc ça permet de faire le lien entre la partie customer support, les gens qui sont au téléphone, et la partie produit. Et le troisième point, c'est, on n'en a pas du tout parlé, mais en fait c'est ce qu'on appelle la qualitative research, quoi. Nous on a une team, vous avez 200 data scientists, 200 researchers, donc de gens qui font de la qualitative research, qui font partie de l'équipe design, et qui font des recherches, des focus groups.
Est-ce qu'on peut parler justement, c'est une des questions qui a été posée, différence que vous faites, tous les trois, data analyst, data scientist, data engineer, j'en passe des meilleurs, voire potentiellement demain product data.
Je pense que, alors nous, la façon dont on a résolu ça, c'est data scientist, maintenant c'est un mot c'est un peu un fourre-tout dans le sens où il y a beaucoup de réalités en fait de métiers derrière. La façon dont on l'a résolu nous, c'est qu'il y a trois tracks de data scientist qu'on va rentrer chez Airbnb. Il y a une track analytics, inférence, algorithme. Ok. Et donc quand vous candidatez chez Airbnb, vous choisissez une de ces tracks. Analytics, c'est en gros tout ce qui est analyse descriptive des données, opportunity sizing, etc. Inférence, c'est tout ce qu'on appelle causal inference, donc c'est expérimentation, déterminer la causalité d'un fait. Algorithme, c'est tout ce qui est machine learning, automatisation de choses, etc.
Oui, non. Alors, chez nous, c'est assez simple. On a effectivement des profils plutôt axés business analyst, en fait. On n'a pas la catégorie data analyst, parce qu'aujourd'hui, on a des business analysts. On a des data scientists et on a des data engineers. Alors, on en a un. Ils travaillent tous ensemble. Moi, je mets à peu près la même définition que toi, c'est-à-dire qu'analyste, ça va vraiment être comprendre, faire du descriptif. Et après, dans data scientist, il y a vraiment différents niveaux, à la fois des niveaux plutôt simples sur des modélisations assez simples et des niveaux avec des complexités d'algorithmes. Nous, on n'a pas la fonction data product manager qui commence à émerger. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est ce qu'on demande nous à nos data scientists, c'est d'être responsable finalement de voir ce qu'ils font en data comme un produit qu'ils vont délivrer. Et donc d'être responsable de leur produit du début à la fin. donc qui n'est pas complètement data product manager, mais qui leur donne une culture de la même chose, quoi. C'est you build it, you run it. Donc si tu fais un algorithme et qu'après tu le mets en prod, en fait ce que l'archi et ce que le data engineer dans l'équipe essayent de créer comme écosystème technique, c'est que le data scientist puisse en fait être le plus autonome du début jusqu'à la fin, jusqu'à effectivement dockeriser, superviser après son API, pouvoir regarder la performance de son modèle. Et nous, ce qu'on demande aux data scientists, c'est effectivement cette conscience de en combien de temps l'API de ton algo de recommandation va répondre. Parce que ça, c'est très important derrière pour le product manager, pour l'utilisateur final.
Ouais, c'est des super data scientists. Ouais. Ils sont.
Après, ils aiment ça. C'est une manière de les fidéliser aussi. Parce que dans certaines organisations, tout est très morcelé aussi, quoi. C'est t'es data scientist, donc des fois c'est pas toujours eux qui le souhaitent, mais c'est t'es un peu au fond de l'open space avec ton casque. Personne vient trop te voir. Alors ils peuvent aimer avoir leur casque. J'en ai beaucoup qui aiment avoir leur casque, mais en même temps, ils peuvent aussi apprécier d'avoir plus de sens, plus d'utilité à ce qu'ils font. Et c'est une manière de les autonomiser, de les responsabiliser, de donner plus de valeur à leur quotidien aussi.
Quand je vous entends, j'ai l'impression que la transition de data science... Alors, le but, ce n'est pas de fusionner, évidemment. On parle de la collaboration et d'une bonne intelligence dans le travail au service des objectifs de l'entreprise, donc, et des utilisateurs. Est-ce que... Je reviens, je suis le PM de la boîte. Qu'est-ce que vous me conseillez pour me former, pour m'acculturer, pour être plus à l'aise avec des conversations, avoir des conversations intelligentes ? Est-ce que vous avez des formations recommandées tu as déjà cité deux articles.
Non, mais du coup, je vais vous citer une formation que je donne. vous pouvez aller sur lewagon.com, ouais. Et vous former à Python dans un truc qui s'appelait Devenez Data Scientist. Et c'est à destination des débutants qui veulent apprendre à coder et faire leur propre truc. Voilà.
C'était la minute auto-promo.
C'est ça.
Non, mais à part ça, je pense qu'il y a. Enfin, je sais pas, on vit dans une époque formidable. Ouais. Donc, dans laquelle il y a des MOOC partout, vous pouvez tout apprendre. Moi, j'ai fait du commerce. J'ai fait une école de commerce. D'ailleurs, je crois que chez Airbnb, personne ne le sait. Je pense qu'ils pensent tous que j'ai un PhD en stats. Alors qu'en fait, bah, pas du tout. Et j'ai toujours eu un peu cette espèce de syndrome d'imposteur, de truc où en fait, je fais un métier qui est technique et qui fait partie de l'ingénierie, etc. Et en fait, la vérité, c'est que vous pouvez tout apprendre. Vous pouvez tout apprendre en ligne. Vous pouvez tout apprendre aujourd'hui en faisant des MOOC. Il y en a plein. Coursera, il y en a un génial de John Hopkins qui vous prend du début à la fin et qui vous forme sur le sujet. Vous pouvez vraiment aller aussi loin que vous pouvez. La réalité, c'est que le changement est tellement rapide sur les technologies que vous avez aujourd'hui, sur les modèles qui changent, etc., qu'en fait, quelqu'un qui a été à l'école il y a 5 ans ou 10 ans n'est plus du tout à la page de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc en fait, vous êtes toujours obligé de changer, etc. Et c'est un truc qui est très rafraîchissant quand vous rentrez, enfin, que je trouve de la Silicon Valley, quoi. C'est qu'en gros, en fait, qu'importe vraiment le background, quoi. Ce qui est important, c'est quel est l'output de ce que tu produis et à quel point est-ce que tu arrives à faire quelque chose de... Et je pense que vous vous formez, il y a plein de trucs.
La courbe d'apprentissage est longue ou pas ? J'ai décidé de mettre demain sur les cours John Hopkins pour pouvoir commencer à être littéré là-dessus. C'est quoi ? C'est deux ans.
En fait, ça dépend à quel point, ça dépend où vous voulez aller, quoi. Ça dépend genre. Mais par exemple, si vous voulez, par exemple, un rappel simple des statistiques, de faire de l'hypothesis testing, de faire un petit peu de causal inference, un petit peu de trucs de voilà, c'est peut-être un mois. Vous avez un mois le cours de John Hopkins, c'est très bien fait. Et vous allez déjà comprendre ce que c'est, je sais pas, une distribution, deux, trois trucs sur les petits tests qui sont essentiels et qui vont faire 80% de ce dont vous avez besoin dans votre boîte, quoi.
Je suis assez d'accord. Il y a tellement de contenu aujourd'hui que c'est assez simple. Je pense que la première question à vous poser, c'est surtout pas d'essayer de comprendre qu'est-ce que fait tel type d'algorithme, comment ça marche, les random forests. Commencez pas par regarder ça, mais commencez par vous dire qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre dans mon quotidien. Et tu disais peut-être que le truc le plus simple au début, c'est de dire ok, bah en fait, quand je fais des A/B tests, les résultats sont pas significatifs, donc je vais essayer d'aller comprendre ça. Bah déjà, vous allez comprendre ce que c'est un test d'hypothèse, une courbe. Après, vous allez vous dire ok, en fait, je comprends pas, on parle d'IA, c'est pas clair pour moi, machine learning, deep learning. Bah du coup, cherchez ça et vous allez trouver du contenu qui va vous expliquer comment ça marche, détection d'images, comment ça marche. Il y a tellement de contenu aujourd'hui, donc c'est plutôt dites-vous par quoi est-ce que j'ai envie de commencer. Et puis, vous trouverez largement le contenu. Je ne sais pas, je ne recommanderais peut-être pas forcément d'aller à des confs sur la data, très honnêtement, parce que si vous allez à des events ou des grandes conférences, c'est très variable, soit c'est très technique, soit c'est très macro. Et donc, c'est très, très variable. C'est plutôt pareil. Hein.
Pareil, et puis tout simplement aller discuter aussi avec les data scientists qui sont assis à côté et qui seront hyper contents d'expliquer comment ils travaillent, ce qu'ils font, comment ça marche.
Juste pour terminer, parce que pour en lien avec ce que tu dis sur le. Pour répondre à un problème concret, il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que vous avez plein de données ouvertes, accessibles, que vous pouvez prendre et que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez commencer à travailler. Moi, j'ai monté il y a 4 ans une association qui s'appelle Data for Good. On est 4000 membres maintenant sur ce truc-là et on réunit des data scientists avec des non-profits sur un tas de sujets. Et vous pouvez travailler si vous êtes intéressé sur le sujet. Donc, on accueille les débutants, ceux qui sont confirmés, sur des problèmes qui sont intéressants. On bosse avec des hôpitaux, on bosse avec l'État sur des différents trucs, etc. Mais c'est pour dire qu'il y a plein de cette donnée qui sont ouvertes. Vous pouvez mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez commencer à regarder. Et comme tu dis, à partir du moment où vous soulevez le capot, regardez comment c'est foutu, un t-test, un truc, etc. Il y a quelque chose d'absolument jouissif de comprendre un peu en fait, comment c'est fait tout ça, quoi. Comment ça se fait, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas plus enthousiasmant que de comprendre ce qu'il y a derrière un set de données. Quoi.
Et si vous voulez commencer par un langage, ce qui est quand même hyper facile aujourd'hui, c'est de commencer aussi en faisant du Python. Vous pouvez rentrer par là aussi. Des jeux de données, on en trouve plein. Là, il y a plein de tutos pour que vous puissiez apprendre à faire du Python. Vous allez trouver des trucs très simples au début. Mais voilà, et ça s'installe, c'est hyper easy. Et moi, je suis en train d'essayer de l'apprendre à mon fils de 10 ans. Voilà, je vais installer. Il était curieux. Il m'a dit, je comprends pas ce que tu fais, donc je vais installer Python. Et je lui ai dit, tiens, vas-y, regarde. Donc, il commence à faire.
On aura commencé par SQL et on termine par Python. Merci encore. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci.
Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors avant de vous quitter, quelques petites choses. Encore merci déjà à nos invités pour leur temps et pour leur retour d'expérience. Et si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, proposer des nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez toujours le faire directement sur Twitter. Le pseudo, c'est @lafrenchtouchfm. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Merci pour tout et à très vite